Alors bonjour à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs d'Aligre FM. Vous êtes en compagnie de Stéphanie Ronceschi sur 93.1 pour une nouvelle émission de Philosophie au présent, une émission qui se veut la voix du Collège international de philosophie. Je salue d'ailleurs au passage Nathalie Perrin, Michele Saporiti qui n'ont pu venir cette fois-ci animer l'émission avec moi. Alors aujourd'hui, c'est une grande première pour nous car nous sommes dans le nouveau studio de Radio Aligre au Centre Richer dans le 13e qui nous accueille généreusement dans ses locaux. Et un grand merci à eux et aussi un grand, grand merci à tous ceux qui ont permis de faire ce déménagement. Beaucoup de bénévoles qui ont travaillé dur, dur pour que nous soyons tous ensemble aujourd'hui réunis, chers auditeurs. Alors, dans le studio, avec moi, la philosophe Stéphanie Perrot-Puységur, qu'on a le grand plaisir de recevoir. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Stéphanie.
Voilà. Alors Stéphanie, tu es docteur et maîtresse de conférences en philosophie à l'Université de Bordeaux. Tu as réussi à sauter dans un train pour être avec nous après la présentation du master dont tu t'occupes et je te remercie. Tu formes aussi par ailleurs les enseignants et les CPE à l'INSPE, l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation de l'Académie de Bordeaux. Tu es membre du laboratoire SPH, Sciences, Philosophie, Humanité, toujours à l'Université de Bordeaux. Tes travaux portent principalement sur la philosophie de l'éducation et sur la pragmatique du texte philosophique. Stéphanie, outre le fait que nous t'avions déjà invité avec Nathalie Perrin et Céline Hervé pour un séminaire sur l'éducation il y a quelques années, tu es très active au sein du Collège international de philosophie puisque tu es directrice de programme. Tu fais un séminaire qui s'intitule « Penser, identifier, enseigner les gestes philosophiques » et en plus, tu fais partie du comité de rédaction de sa revue « Rue Descartes ». En ce qui concerne tes recherches, tu as écrit de nombreux articles que l'on retrouve sur Cairn et un livre qui s'intitule « Gestes, figures et écritures de maîtres ignorants, Platon, Montaigne, Rancière » et c'est aux éditions Lambert-Lucas, hein, publié en 2022. Et le 8 février, c'est tout à fait imminent, ce sera l'apparition d'un ouvrage collectif que tu as co-dirigé et auquel tu as participé qui s'intitule « L'éthique et les enjeux de la formation professionnelle, éducation et santé » aux éditions L'Harmattan. Voilà, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose sur ta présentation hein ? J'ai essayé de synthétiser ton très long CV, mais ce n'était pas facile.
Oui, merci beaucoup. Écoute, non, je crois que c'est assez fidèle, effectivement, à mon parcours. Juste dire peut-être que j'ai enseigné la philosophie en lycée, hein, avant de faire des recherches en philosophie.
Oui.
Donc, j'ai une première expérience d'enseignante de philosophie en lycée pendant un certain nombre d'années. Ensuite, j'ai travaillé avec des enseignants, premier degré, second degré, des CPE. Donc, je suis devenue formatrice d'enseignants de CPE, ce qui est encore un autre métier. Et j'ai essayé de m'appuyer sur tout ce que la philosophie m'avait apporté pour aider ces jeunes gens finalement à rentrer dans de nouvelles fonctions, dans un nouveau métier. Et à un moment donné, s'est posé la question de reprendre un parcours de recherche finalement que j'avais un peu interrompu pour toutes ces raisons. Et c'est comme ça que je suis arrivée à travailler effectivement sur cette question du geste philosophique qui m'importe beaucoup et qui m'occupe aussi dans le cadre de ma direction de programme au Collège international de philosophie.
Voilà. Alors justement, aujourd'hui, tu es là pour nous parler de la question suivante. Le geste philosophique, le philosophe est-il un artisan de la pensée ? Voilà, donc c'est une réflexion sur la philosophie comme artisanat qui fait écho d'ailleurs à la belle semaine consacrée par Radio Aligre cette année sur l'artisanat sous toutes ses formes hein, et qu'on peut réécouter en podcast sur aligrefm.org. Hein, il s'agit de la semaine du 13 au 19 novembre qui s'intitulait « Les mains ont la parole ». Alors, pour commencer cette première partie sur le geste philosophique, hein, nous insisterons davantage dans une seconde partie sur l'idée d'un artisanat philosophique, j'aimerais qu'on précise d'abord ce qu'on appelle geste philosophique. Hein. Mm-hmm. C'est une expression assez étonnante, car un geste peut être considéré comme un mouvement de la main, du moins du corps, hein, qui serait porteur d'une intention, contrairement à un simple mouvement mécanique. Or, la philosophie désigne une activité d'abord intellectuelle, il me semble, hein, alors que on peut se demander que peut désigner un geste philosophique. Pour nous aider à comprendre, j'aimerais lire un passage d'un texte que tu nous as indiqué lors de la préparation, un extrait de la préface de « Gestes de philosophe » de Jacques Schlanger. Il écrit au début de son ouvrage. La pensée d'un philosophe ne s'exprime pas seulement par des contenus de pensée intellectuelle, elle se manifeste aussi à travers des manières de penser et de faire, des manières d'agir et de réagir, des tons, des styles, des postures, des tenues, des attitudes, bref, à travers une gestuelle qu'on tient souvent pour négligeable et qui constitue pourtant une partie essentielle de ce qui se fait et se dit en philosophie. Pour nous aider à comprendre ce que serait ce geste philosophique, il parle un peu plus loin d'une distinction. Il dit qu'il part d'une distinction entre trois manières différentes d'agir en philosophe. D'abord, produire des objets idéals, ce qui l'amène à parler de philosophe comme producteur d'œuvres. Ensuite, transmettre un savoir. Là, il s'agit du philosophe enseignant. Enfin, assumer un mode de vie par lequel il s'interroge sur le philosophe qui veut s'accorder sa vie à sa pensée. Alors, Stéphanie, peux-tu donc nous éclairer sur ce qu'est un geste philosophique et nous dire par la même occasion ce qui, toi, dans tes recherches, t'a amené à t'intéresser à cette notion de geste philosophique et pourquoi l'idée de geste, justement, n'est pas celle plus habituelle, plus conventionnelle de méthode ou d'acte philosophique, par exemple ?
Oui. Ok, merci. Oui, merci d'avoir rappelé ce texte, effectivement, Jacques Changer, que je trouve intéressant dans sa façon d'aborder la philosophie. Alors, il se trouve que moi, je suis arrivée au geste au bout d'un parcours. Ça n'a pas été un point de départ, mais plutôt un point d'arrivée de mes recherches. Ce qui m'a d'abord occupée, c'est de travailler sur des figures, des personnages philosophiques. Donc, j'ai été interpellée dans un premier temps par le personnage de Joseph Jacotot, que Jacques Rancière met au centre de son texte qui s'appelle Le Maître Ignorant. Et ce personnage, donc, à qui il arrivait une aventure intellectuelle assez particulière, m'a interpellée. Et à partir de lui, je me suis interrogée sur des figures de maîtres ignorants, ce que j'ai appelé les figures de maîtres ignorants en reprenant cet énoncé de Rancière. Et je suis allée chercher dans l'histoire de la philosophie différentes figures. Et ceci m'a amenée finalement à remonter jusqu'à la figure un peu principielle de Socrate, et de travailler sur le Socrate de Platon, mais aussi sur le Socrate de Montaigne, parce que il ne s'agit pas tout à fait du même personnage chez ces deux philosophes. Donc c'est ce travail sur les personnages qui m'a, d'une certaine manière, amené à m'interroger sur leurs gestes. Que faisaient ces personnages dans leur interaction avec leurs élèves, leurs interlocuteurs, etc. Alors il s'agit peut-être, en un premier sens, on pourrait dire, de gestes physiques, mais évidemment ce qui m'intéressait, c'était les gestes philosophiques, notamment des gestes langagiers, une façon de s'adresser à leurs interlocuteurs, qui étaient assez caractéristiques de chez chacun de ces auteurs, de ces personnages. Et il se trouve que dans ces trois œuvres sur lesquelles j'ai travaillé, je me suis aperçue que ce geste du personnage, en quelque sorte, le geste dialectique, par exemple, du Socrate platonicien, se retrouvait d'une certaine manière dans un geste d'écriture, chez chacun de ces philosophes, le geste d'écriture que constitue le dialogue socratique chez Platon, le geste d'écriture que constitue l'essai montagnien, et je trouve aussi une forme d'écriture très singulière qu'on trouve dans un certain nombre de textes de Rancière. Et au fond, pourquoi j'ai utilisé cette notion de geste, c'est qu'elle me permettait, je trouve, d'exprimer ce point de rencontre ou cette analogie entre le lien que le personnage entretient avec son interlocuteur et le lien que le philosophe entretient avec son lecteur à travers l'écriture. L'idée étant de dire que finalement, ce geste philosophique, il infuse aussi bien la figure du maître philosophe que le texte philosophique lui-même et la façon d'écrire la philosophie. Dans les deux cas, il y a une sorte d'éthos, on pourrait dire d'éthos du philosophe, qui apparaît, qui se dégage et qui signe une certaine façon de faire de la philosophie. Donc, à partir de cette hypothèse, que le geste permettrait de lire à la fois la nature de la relation du philosophe à son interlocuteur, mais aussi la nature de la relation entre lecteur et philosophe via le texte, eh bien, j'ai élargi en quelque sorte cette hypothèse en me disant, au fond, qu'est-ce qu'apporte cette image du geste philosophique pour penser la philosophie ? Il me semblait que c'était une façon peut-être un peu différente. Hein, tu as raison de dire que ce n'est pas forcément ce à quoi on pense immédiatement. Mmh. Le geste est plutôt un geste physique. Hein, voilà. Parler de gestes intellectuels, de gestes mentaux, hein, pour reprendre des expressions qu'on trouve chez certains commentateurs, je pense à Starobinsky, hein, qui parle des gestes mentaux pour qualifier le travail de Montaigne, hein, le Montaigne en mouvement, hein, quelque sorte. Eh bien, je me disais que aborder la philosophie sous cet angle était une façon de s'interroger sur la spécificité de l'activité philosophique. Ça nous amenait à nous demander qu'est-ce que c'est que faire de la philosophie.
Et alors du coup, est-ce que tu penses qu'il y a un geste fondateur en philosophie, hein, comme par exemple la création de la maïeutique chez Socrate et bon, c'est vrai que tu as travaillé vraiment beaucoup depuis des années sur la figure du maître, hein, maître à penser, maître à philosopher, maître ignorant. Et on retrouve, tu parles de personnages, mais même de personnages conceptuels. Alors c'est vrai, on est tout le temps en compagnie de Socrate, de Montaigne, de Rancière. Rancière d'ailleurs qui était là pour les 40 ans en chair et en os, hein, pour les 40 ans du Collège international de philosophie. Alors, que nous disent ces maîtres, si j'ose dire tes maîtres, hein, sur la transmission de ce geste, hein? Est-ce que dans la transmission de ce geste, il s'agit de gagner une sorte d'adresse, d'aisance, par la fréquentation de différents maîtres successifs, hein, comme si on continue l'analogie, hein, est-ce qu'il peut y avoir des compagnons du devoir, hein, dans l'artisanat? Et est-ce que, comment se fait cet apprentissage, hein? Est-ce que c'est par les livres, des exercices réguliers, hein, pour nous rendre plus habiles, plus agiles en philosophie, hein? Voilà. Et finalement, toi, et qu'est-ce que tes maîtres t'ont transmis, hein? Voilà. Alors, personnellement.
Oui, effectivement. Donc, cette idée de maître, hein, tu as raison de faire le pont avec cette idée de l'artisan. Hein, on pourrait parler des compagnons du devoir, hein, qui font tout un cheminement pour rencontrer différents maîtres. Hein. Donc, peut-être que déjà, on peut se dire, ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément d'avoir un seul maître, mais de pouvoir en croiser plusieurs, hein, dans son parcours. Avec l'idée qu'il n'y a peut-être pas un geste, justement, unique ou fondateur, mais que ce qui est intéressant, c'est cette variété des gestes. Hein. C'est-à-dire que la philosophie, c'est un faire, un peu comme l'artisanat, d'une certaine manière. Il s'agit de faire de la philosophie, hein, c'était le titre de notre congrès. Mais au fond, il y a plusieurs manières de faire de la philosophie. Tu as parlé tout à l'heure de la petite typologie que propose Schlanger en parlant de l'œuvre, de l'enseignement, ou des modes de vie. Hein. Oui. Il y a plusieurs façons de décliner ces gestes philosophiques. Et sans doute, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir en découvrir plusieurs. Bon. Après, c'est vrai que dans la rencontre avec un maître, alors quand je dis un maître, ça peut être une personne, hein, ça peut être un personnage, ça peut être une œuvre. Hein. Je pense que on peut se dire que ce n'est pas nécessairement un être... au sens premier du terme, un être incarné, hein, ça peut être une œuvre. Enfin, Rancière dit ça, hein, il dit par exemple, lui qui n'a pas eu un maître, mais qu'il en a eu beaucoup, et que finalement, les œuvres peuvent constituer des occasions de rencontre avec d'autres façons de faire de la philosophie. Bon, on peut le penser comme ça. En tout cas, ce qui est intéressant, je trouve qu'on parle d'un maître en chair et en os, ou d'un personnage fictif, hein, ou fictionné, ou même d'une œuvre. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que, au-delà de ce que dit le personnage ou du message dont il est porteur, voilà, ce qui est intéressant, c'est sa façon d'habiter la philosophie, c'est-à-dire sa façon de philosopher. Je parlais tout à l'heure d'un éthos. Il me semble que quand on rencontre un enseignant, ce qui est quand même une question moi qui me tient à cœur, autant que ce que dit ou transmet l'enseignant, ce qui compte, c'est la façon dont il le fait, en quelque sorte. Et au fond, il y a l'idée d'une recherche de cohérence entre le dire et le faire, hein, et que ce qui est enseignant, c'est quand même cette cohérence forte, hein, entre une certaine façon d'habiter son discours, en l'occurrence philosophique, et ce qu'on peut porter à travers le discours comme représentation, valeur, etc. Si je prends l'exemple de Rancière, hein, on peut dire, lui, au fond, son geste philosophique, ça serait un geste égalitaire. En tout cas, c'est cela qu'il nous transmet de Jacques Otto. Oui. Hein, et peut-être que dans sa façon d'écrire la philosophie ou de faire la philosophie, il y a cette préoccupation justement de ne pas créer de dénivellation entre lui qui parle et ceux dont il parle, ou la parole de ceux dont il parle.
Donc, dans condition de la transmission, quoi.
Voilà, c'est ça. Et il me semble qu'en lisant ces textes, on apprend autant par la façon dont les choses sont dites, hein, que parce que ce qui est effectivement dit, par les thèses développées, par les concepts créés par le philosophe.
Voilà. Le contenu et la matière, la manière, voilà, dépendante.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Alors je me demandais aussi, est-ce que il y a un lieu privilégié pour le geste philosophique, hein ? Par exemple, je pensais tu parles beaucoup de Socrate, mais du coup, je pensais beaucoup à la rue. Comme pour Socrate, hein, quand dans le banquet, Diotime explique que Eros, fils de Poros, dieu de richesse et de Pénia, la mendiante, hein, Eros, donc figure du philosophe éternellement amoureux, est toujours sur le pas des portes, hein, cette espèce de moteur intellectuel est toujours sur le pas des portes, hein, comme Socrate qui philosophait dans la rue. Ou est-ce que, au contraire, le lieu de ce geste philosophique ne serait pas plutôt, comme beaucoup, dans son bureau, dans sa chambre, à la bibliothèque, ou encore à l'école, à l'université, comme lieu de transmission? Ou est-ce que, pourquoi pas, ça ne pourrait pas être aussi à la radio? Voilà.
Alors oui, alors c'est intéressant, c'est vrai, c'est pas forcément quelque chose à quoi j'avais pensé, mais de se poser la question du lieu. Parce que quand on se pose la question du lieu, on se pose la question de l'adresse d'abord. Hein. À qui s'adresse-t-on? Évidemment, philosopher dans sa tour, hein, comme le faisait Montaigne, c'est pas tout à fait la même chose que de philosopher dans la rue. Hein. On voit bien, et puis derrière, on voit des, en quelque sorte des figures de philosophes se dessiner. Celui qui va haranguer la foule, s'adresser aux uns aux autres, ou celui qui est plutôt dans le repli, l'intériorité, je sais pas, Descartes dans son poêle. Bon, on voit bien que là, il y a derrière des... On revient un peu à des types, hein, ou des figures qui renvoient à des adresses différentes et à des rôles sociaux et politiques peut-être différents assignés à la philosophie. Hein. Donc c'est intéressant de cette façon-là. Je pense qu'aussi, il y a, dans la question du lieu, il y a un peu la mise en scène de la pensée. Hein. Au fond, c'est comment la pensée est mise en scène dans un décor. On peut penser... À certains tableaux, je pense à ce tableau, je crois que c'est un tableau de Raphaël, hein, où on voit Platon et Aristote sur l'agora, Platon désignant le ciel et Aristote le sol. Bon,
D'ailleurs, avec la main, ce qui est central dans notre question.
Voilà, dans la question du geste. Hein, c'est pas, évidemment, c'est un tableau qui est intéressant de ce point de vue-là, tu as raison. Et au fond, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine façon de se représenter à travers ces mises en situation ce qui est le plus abstrait et le plus insaisissable, c'est-à-dire ce qu'est la pensée. Hein. Donc il y a quand même des tentatives d'approcher de façon imagée un petit peu ce que c'est que faire de la philosophie. Hein. Voilà. Donc cette question du lieu, elle est intéressante, je trouve, à ce titre-là.
Alors moi qui passe mon temps en ce moment à traquer les élèves qui se servent de ChatGPT dans leur dissertation de philo, c'est absolument navrant. Je me demande si avec ce concept de geste philosophique que tu n'as pas réussi, Stéphanie, à saisir ce qui résiste à l'intelligence artificielle. L'artisanat est aussi ce qui n'est pas industrialisé, ce serait ce qui ne se laisse pas reproduire à l'échelle industrielle, donc ce qui garde sa singularité, hein, d'où d'ailleurs la tentative vaine, hein, des élèves de réussir avec l'IA leurs études, hein, avec l'intelligence artificielle. Ne pourrait-on pas voir justement avec l'IA, avec l'intelligence artificielle, un éloignement par rapport à la singularité de ce geste philosophique, hein? L'intelligence artificielle qui croit philosopher trahit justement cette perte d'un geste, hein, qui est le normalement, comme on l'a vu tout à l'heure, le prolongement d'une intention, hein. Elle perd ce geste au profit d'un mouvement vraiment mécanique, hein, et finalement l'intelligence artificielle qui a beau s'appeler intelligence ne serait-elle pas ce qui nous éloigne d'une véritable pensée ?
Oui, alors c'est vrai que c'est intéressant de connecter avec cette problématique très contemporaine de l'IA.
Plus près du micro.
L'IA, en plus, c'est, en fait, ne fait que recomposer des discours en réalité. Mm-hmm. Hein, donc il n'y a pas vraiment d'originalité, sinon simplement une sorte de patchwork, hein, d'éléments collectés à droite à gauche. Et ce qui manque, c'est peut-être...
Côté bricolage aussi.
Voilà, oui, voilà, il y a du bricolage, mais comme tu le disais, sans l'unicité ou l'intention derrière. Hein, c'est-à-dire qu'il manque un sujet derrière le discours et peut-être derrière ça aussi une incarnation de ce discours.
Voilà. Hein,
comme on le disait tout à l'heure, finalement, on n'a pas là l'unité d'une façon de faire et d'un message. Hein. On a simplement des bouts de messages recomposés entre eux.
Il n'y a pas le style, le lien, et la cohérence dont tu parlais aussi tout à l'heure. Quoi.
Ouais. On a quelque chose d'un peu impersonnel en réalité. Hein,
oui,
hein, voilà, un message assez impersonnel, passe-partout, mais qui ne signe pas... Une singularité en quelque sorte.
Ouais. Oui, mais d'ailleurs c'est très très étonnant de lire des devoirs d'élèves issus de l'intelligence artificielle parce qu'au premier abord on se dit il y a des beaux termes, il n'y a pas d'erreur, mais c'est tout lisse et finalement il n'y a rien dedans quoi. Et moi ça me met vraiment mal à l'aise parce que j'arrive pas à comprendre ce que je ne comprends pas en fait dans ces écrits rapportés. Mmh. C'est assez troublant je trouve.
Il manque peut-être le hasard. Le hasard, le raté, l'approximation, qui sont des moments nécessaires, je pense, pour la construction de la pensée.
Le tâtonnement philosophique nécessaire à la pensée, à la construction, à la créativité, en fait.
Hein. Oui.
C'est juste un arrangement, c'est pas une création. J'aimerais maintenant citer un extrait d'un de tes articles, Stéphanie Perrault-Puységur, et justement, ça tombe bien, tu viens de parler de cohérence tout à l'heure. Et dans le texte qui m'intéresse, c'est un texte qui a un très beau titre, « Apprendre des gestes philosophiques avec les maîtres et les textes ignorants », de la revue Rue Descartes, numéro 101 qu'on trouve sur Cairn. Tu écris à la page 151 « Mon hypothèse de lecture est que leur puissance formatrice, tu parles de ces maîtres ignorants, tient à l'effort incessant de ces philosophes pour mettre en cohérence leurs gestes philosophiques fondateurs, les figures qui incarnent et les écritures qui l'expriment. » Et comme notre sujet renvoie à la philosophie comme artisanat, comme savoir-faire qui peut faire feu de tout bois, j'ai repensé en préparant notre émission au sujet de philosophie qui était tombé au bac l'année dernière, un extrait de La pensée sauvage de Claude Lévi-Strauss qui traite du bricolage. Donc une autre manière de pratiquer l'artisanat. Et comme c'est bientôt notre pause musicale, j'ai choisi de vous faire écouter, chers auditeurs, Le bricoleur interprété par Brassens. Alors, avant d'écouter cette chanson qu'on va diffuser tout à l'heure, juste pour la petite histoire, la chanson Le Bricoleur a été écrite par Brassens, mais elle a été chantée d'abord par Patachou en 1952, qui est un personnage haut en couleur, une chanteuse, actrice, musicienne, qui doit son nom à la pâtisserie dans laquelle elle travaillait, qu'elle a commencé, en plus de ses talents de cuisinière, à animer par des chansons accompagnées d'un arc accordéoniste jusqu'à ce que ça devienne un cabaret célèbre de Montmartre dans lequel elle a finalement lancé entre autres Brassens.
Pendant les rares moments de pause où il ne répare pas quelque chose, il cherche le coin disponible où on peut encore planter un clou. Boîte à outils, boîte à outils. Le clou qu'il enfonce à la place du clou d'hier, il le remplace ras de main par un clou meilleur. Le même qu'avant-hier d'ailleurs. Mon Dieu quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. Boîte à outils, boîte à outils. Au cours d'une de mes grossesses, devant lui je pestais sans cesse contre l'incroyable cherté d'une layette de bébé. Boîte à outils, boîte à outils. Mais lorsque l'enfant vint au monde, je vis avec une joie profonde que mon mari s'était débrouillé pour me le faire tout habiller. Mon Dieu quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. Boîte à outils, boîte à outils. À l'heure actuelle, ils fabriquent un nouveau système électrique qui va permettre à l'homme enfin de faire de l'eau avec du vin. Boîte à outils, boîte à outils. Mais dans ses calculs, il se trompe, et quand on veut boire à la pompe, il nous arrive d'ingurgiter un verre d'électricité. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. Boîte à outils, boîte à outils. Comme il redoute que des canailles convoitent ses rabots, ses tenailles, en se couchant, il les installe au milieu du lit conjugal. Boîte à outils, boîte à outils. Et souvent la nuit je m'éveille en rêvant aux monts et merveilles qu'un ancien frôlement coquin, mais ce n'est qu'un vilebrequin. Mon Dieu quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu quel bonheur d'avoir un mari bricoleur.
Alors, chers auditeurs, nous sommes toujours sur Aligre FM 93.1 pour notre émission Philosophie au présent, en partenariat avec le Collège international de philosophie et en compagnie de notre invitée Stéphanie Perrault-Puységur pour nous parler du geste philosophique et plus précisément du philosophe comme artisan de la pensée. Alors Stéphanie, est-ce que tu as un petit mot sur cette chanson ou sur le bricolage? Est-ce que le geste philosophique comme effort de cohérence, finalement un effort de sens, peut être celui d'un bricoleur qui, comme le philosophe, qui récupère de quoi créer, de quoi penser, hein, et qui aurait lui aussi sa boîte à outils conceptuelle, j'imagine, hein, est-ce qu'on peut faire également avec le bricoleur une sorte de parallèle.
Oui, alors moi je trouve qu'effectivement c'est une image intéressante de cette image du bricoleur. D'abord parce que ça permet un peu de désacraliser l'activité philosophique, hein, et de la penser comme quelque chose qui est finalement travaille à partir de récupération. Hein, on va se nourrir en tant que philosophe de effectivement tel concept, tel outil, tel mode de questionnement, et puis à partir de là construire sa propre pensée. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça autorise des emprunts. Hein, divers, et ça veut dire que la philosophie n'est pas quelque chose de fermé ou d'hyper consistant, mais c'est quelque chose de vivant, hein, qui peut circuler. On a des types de questionnements, des concepts qui vont circuler d'un champ à l'autre, ou au-delà de la philosophie, par exemple. On voit bien qu'il y a des concepts qui migrent, je sais pas, de la sociologie à la philosophie, ou de la philosophie à l'ethnologie, bon, ou vice-versa. Donc je trouve que c'est une façon d'ouvrir un peu la porte de la philosophie. Bon, au collège, on a l'habitude justement de faire beaucoup de ponts entre la philosophie et d'autres domaines de la pensée ou de la création. Et bon, cette image du bricoleur, je trouve qu'elle est intéressante aussi pour ça, hein, de donner le sentiment que la philosophie est une construction à partir de matériaux dont on se nourrit, issus de différents champs, de différents discours.
Après avoir expliqué ce que peut être un geste philosophique, la seconde partie de cette émission renvoie davantage à la pensée philosophique comme artisanat. Et l'idée de la philosophie comme artisanat amène à l'idée d'un savoir-faire, justement, d'une technique. Hein, mais de quoi, justement, le philosophe serait-il l'artisan? Si la philosophie est une pratique artisanale, une poiesis, une production, ce serait une production de quoi? Alors, bien sûr, le philosophe travaille avec les mots, travaille sur le langage, certes. Hein, Deleuze, d'ailleurs, écrit que le philosophe est créateur, décrit le philosophe comme créateur de concepts. Hein, mais est-ce que ce ne serait pas très catholique, hein, non, ce ne serait pas très platonicien de ramener le philosophe, par exemple, à être un technicien du langage, il me semble.
Oui, alors effectivement, hein, on peut se dire que cette figure de l'artisan, du technicien... Alors moi, je ferais peut-être une différence entre le technicien et l'artisan.
C'est-à-dire alors que, voilà, oui, la différence entre technicien, artisan... Et peut-être même l'artiste aussi,
oui,
hein, parce que tout vient de la techné, art au sens de technique, mais art au sens des beaux-arts. Où se situe la différence pour le philosophe quand il accomplit son geste philosophique, un artiste, un artisan?
Alors moi, j'aurais tendance à dire la technique, on va être, pour peut-être simplifier un peu les choses, hein, du côté peut-être du geste mécanique, du geste relativement impersonnel, justement, hein, qui peut être répété à l'envi, là où le geste de l'artisan est toujours un geste individuée. L'intérêt de l'artisanat, c'est précisément que tel bol ne va pas ressembler à tel autre. Pour le potier, on reconnaît la main du potier dans l'objet, en quelque sorte. On reconnaît son style, son geste. Et de ce point de vue-là, il peut y avoir une parenté avec l'œuvre d'art. Mais je trouve que quand on compare la philosophie à l'art, au sens de l'art que produirait un artiste, on a tendance à... en quelque sorte idéaliser un peu la figure du philosophe, à le représenter comme créant un peu ex nihilo, comme étant un génie, là où la figure de l'artisan insiste peut-être davantage justement sur l'apprentissage et l'idée que quelque chose peut se transmettre et qu'il faut du temps et qu'il faut une forme de patience aussi pour s'approprier un savoir-faire, un geste, alors un geste de pensée pour nous. Donc ça nous renvoie aussi à la façon dont ces gestes de pensée peuvent se transmettre de génération en génération. Je pense que souvent les élèves sont paralysés par l'idée que justement ils devraient comme ça avoir une forme d'inspiration divine, un peu comme le poète Dion, pour faire leur dissertation, pour produire ou faire de la philosophie. Et au fond, cette représentation-là, elle les empêche de chercher, elle les empêche d'essayer. Et
peut-être, ils attendent toujours.
Voilà, ça peut durer très très longtemps. Là où la représentation de la philosophie comme artisanat, je trouve, donne un peu plus l'idée que, eh bien, il faut du temps, il faut essayer, il faut recommencer, il faut s'entraîner. Il faut faire un peu ses gammes, en quelque sorte, pour petit à petit trouver son propre style et trouver son propre geste, sa propre façon de circuler dans les idées, de circuler dans le langage pour penser, en quelque sorte.
Ouais, l'idée de circulation, elle est intéressante aussi.
Voilà.
Je t'en prie, continue. Mais plus artisan qu'artiste, et en même temps, pas non plus, comme on a pu le dire pendant des siècles, la philosophie, la reine des sciences. Donc, ce ne serait pas un geste scientifique non plus, mais en même temps, c'est un geste qui nécessite un savoir, mais un savoir-faire, qui engage un savoir-être aussi. Enfin, c'est ce que tu avais l'air de dire aussi.
Je pense qu'il faut effectivement... pour pouvoir justement petit à petit ajuster son propre geste, c'est-à-dire sa propre manière de faire de la philosophie, c'est vers ça qu'on irait, il faut passer par la rencontre avec une diversité de gestes. On sait bien que c'est comme ça qu'on se nourrit. Et ça nous renvoie à la raison pour laquelle on fait lire des textes, par exemple, à nos élèves. Pourquoi on fait lire des textes de philosophes ? Ce n'est évidemment pas pour qu'ils restituent un discours ou un résumé par ChatGPT de la pensée de Kant en 10 lignes ou ce genre de choses, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est le cheminement, quand on parlait tout à l'heure, de les amener à rentrer dans un discours, à accomplir en lisant des gestes mentaux. C'est-à-dire que je crois que quand on lit un dialogue de Platon, quand on lit la préface de la Critique de la raison pure ou quand on lit une description phénoménologique, eh bien on est amené à accomplir un certain nombre de gestes, parce qu'il n'y a pas de lecture sans investissement et activité du lecteur. Et c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir, en quelque sorte, expérimenter des postures, expérimenter des positions et des rapports au réel différents. Et qu'on va peut-être, après, investir tel ou tel geste en fonction des objets qu'on rencontre ou en fonction des questions intimes qui sont toujours à l'origine, en quelque sorte, des questionnements philosophiques.
Oui, ce que tu dis, je me demande si ce n'est pas quelque chose aussi de très français. Parce que nous, enfin moi je trouve que le programme est très bien fait. C'est un programme par notion où... autour d'une notion, on va, comme tu le dis, aborder des textes d'auteurs très différents et jamais de manière chronologique. Alors que, par exemple, en Italie, on enseigne la philosophie par l'histoire de la philosophie. Mmh. Alors, c'est très intéressant aussi. Mmh. Ça crée d'autres profils, en fait, d'élèves.
Oui. Alors, moi, je reprends toujours cette petite opposition kantienne, apprendre la philosophie, apprendre à philosopher.
À philosopher, voilà.
Et effectivement, moi, je trouve que l'idée... Enfin, il me semble qu'il y a deux extrêmes qui seraient appauvrissants du point de vue de l'apprentissage des gestes. Un extrême, ça serait effectivement d'être dans un pur discours d'histoire de la philosophie qui n'amène jamais en quelque sorte justement à s'emparer à ces gestes.
Oui, qui seraient figés, quoi.
Voilà, qui seraient figés. Et l'autre, dans une autre direction, ce serait l'idée de dire qu'on peut philosopher sans se frotter à ces gestes philosophiques. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'au fond, on pourrait avoir comme ça des gestes complètement décontextualisés. Moi, je trouve intéressant le travail de Michel Tozzi qui essaie de penser des gestes qui seraient joints entre eux, caractéristiques de l'activité philosophique, donc le problématiser, l'argumenter et le conceptualiser. Je trouve que c'est intéressant, ce travail de tentative d'isoler comme ça certains gestes, mais je pense que, et ce n'est pas du tout, je pense, le sens de son travail, il ne faut pas se priver de voir comment on problématise de différentes manières dans les différentes philosophies. On ne va pas problématiser de la même manière quand on est Descartes, quand on est un phénoménologue, quand on est Kantien ou quand on est Platon. Et donc, chacune de ces caractéristiques ou chacun de ces gestes philosophiques est lui-même diffracté à travers différentes expériences philosophiques. Et c'est cette richesse-là, je trouve, qu'on a à faire expérimenter à nos élèves pour qu'ils n'aient pas une vision appauvrie ou figée de ce qu'est le travail philosophique.
Et ce qui est déroutant, en dehors même du contenu philosophique, c'est la méthodologie. Voilà, c'est ce geste-là, et que certains ont du mal à accepter. Finalement, les plus scolaires aimeraient bien avoir quelque chose de moins déroutant, de moins étonnant. Enfin, bon, Aristote, la philosophie, c'est l'art de s'étonner.
Oui,
voilà. Alors ben justement, plus que jamais, désenseigner la sottise, c'est une expression que tu as travaillée dans tes textes, que tu empruntes, il me semble, à la préface des Essais de Montaigne. Et il me semble que c'est vraiment une urgence. Et est-ce que tu peux justement, du coup, nous parler de cette vocation émancipatrice, de ce métier, puisqu'il s'agit bien de métier, de philosophe enseignant. Métier donc qui a son propre savoir-faire et qui n'est donc pas seulement un savoir. Et par ailleurs, puisque dans la foulée, puisque tu es au cœur de l'enseignement de la philosophie, de par tes fonctions, de par tes recherches, est-ce que aussi tu peux nous dire un petit peu ce que tu penses de l'évolution de l'enseignement de la philosophie, des dernières réformes? Voilà, je ne sais pas si tu es optimiste ou pas.
Alors, sur le premier aspect, donc effectivement, cette expression « désenseigner la sottise », alors moi, c'est une expression que je trouve très intéressante, qui est une expression de Marie de Gournay, qui est la fille d'adoption de Montaigne. Donc, c'est intéressant, une femme, en philosophie, il n'y en a pas tant que ça. Donc, et qui reprend, en quelque sorte, à travers cette formule, on pourrait dire, l'objectif des Essais de Montaigne, qui sont là, justement, pour nous amener à nous défaire d'une forme de suffisance, de certitude, de croyance qu'on détient la vérité ou qu'on en a fini avec la pensée. Et les Essais, c'est un ouvrage qui justement, tu parlais tout à l'heure un peu de l'inconfort ou du côté surprenant. C'est un ouvrage qui est très puissant, je trouve, du point de vue pédagogique, parce que c'est un ouvrage qui interdit au lecteur de s'arrêter sur une thèse. C'est un ouvrage qui déstabilise constamment la lecture, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'enfin, on croit avoir compris ce que voulait dire Montaigne, et il produit une objection à son propre discours qui fait que finalement, ce qu'on croyait avoir compris n'est encore qu'une partie du cheminement et qu'on voit qu'on peut toujours continuer à aller plus loin. Donc il y a quelque chose,
scepticisme aussi, voilà, qui rend la chose dynamique, quoi.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on est là vraiment dans le mouvement, c'est ce que disait Starobinsky, le mouvement de la pensée, un geste de peser des jugements, pour reprendre cette expression de geste, qui amène constamment à relancer en fait ce travail de questionnement de la pensée. Donc pour en venir un peu au métier de philosophe enseignant, c'est vrai que c'est un métier qui est extraordinaire, qui est extraordinaire parce que précisément, on a affaire expérimentée à de jeunes gens cette nécessité à la fois de se cultiver, c'est-à-dire de lire et d'apprendre à lire les textes et d'apprendre à comprendre les mots qu'on utilise, mais au-delà de ça, apprendre à produire quelque chose qui serait une expression réfléchie et une mise en question peut-être de ses propres croyances ou de ses propres discours. Hein, quelque chose qui serait déstabilisant. Alors, de ce point de vue-là, c'est assez adolescent, parce que les adolescents aiment bien remettre en question les discours dominants. Mais souvent, ils le font en étant eux-mêmes pris dans toute une série de représentations. Mais apprendre ce mouvement-là des jeunes gens, c'est quand même quelque chose qui est, je trouve, assez exaltant. Alors, et l'évolution de l'enseignement, tu disais, est-ce que les conditions sont réunies pour permettre ce travail-là ? C'est un travail qui est quand même très exigeant, qui est difficile quand on est dans des classes très nombreuses et qu'on a peu de temps. Hein. On parlait tout à l'heure du travail de l'artisan. L'artisan, c'est quelqu'un qui nécessite du temps. Hein, qui nécessite un accompagnement pour
sa patience.
La patience, on parle de la patience du concept, mais on pourrait dire il y a tout un temps long qui est nécessaire. Le fait de ne pas être pris dans une évaluation permanente, avoir le temps d'essayer, de se tromper, de recommencer sans être constamment sous la loupe de l'évaluation. Et on voit bien que l'orientation actuelle des politiques éducatives vient court-circuiter, je dirais, ce temps nécessaire d'apprentissage, puisqu'il faut tout de suite être efficient, puisqu'on sait que les différentes productions qu'on va faire vont être évaluées. Donc ça, c'est quand même peut-être un frein considérable et qui vient un petit peu atténuer l'enthousiasme souvent des élèves qui arrivent curieux et qui très rapidement sont finalement déstabilisés. Ça fait partie de cette expérience. Mais dans un contexte où l'instabilité et le temps de la recherche est court-circuité, ça peut rapidement devenir douloureux. Donc ça, c'est quand même un contexte, je trouve, qui n'aide pas les élèves à s'essayer, à se lancer en quelque sorte.
Ouais, c'est un état d'esprit social. Je trouve que, je ne sais pas si tu connais le sociologue Hartmut Rosa, dont il parle, il parle de l'accélération qui se fait aliénation de nos sociétés où tout va plus vite. Et on est dans cette hyper-évaluation, ce culte de la performance et d'où notre difficulté à se poser pour penser, en fait, tout simplement. Tout à fait,
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Alors, on en a parlé de plusieurs figures de philosophes qui pouvaient incarner différents gestes, l'artisan, le bricoleur, le maître-ignorant. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi parler de la figure du clown ? Voilà, j'ai pensé à ça parce que, justement, tu viens d'interviewer le philosophe et comédien Yves Cusset sur la question du philosophe et son clown, de l'enseignement de la philosophie par l'humour, justement. Et tu as du coup produit une très belle interview dans le dernier numéro de la revue Rue Descartes, dans la rubrique Cursus, la revue du Collège international de philosophie.
Oui, alors c'est effectivement un philosophe très original qui a un parcours lui aussi multiple puisqu'il a il a fait de la recherche, il a enseigné, il fait beaucoup de théâtre et particulièrement le clown. Il a une expérience du clown et en fait, il est une sorte de clown philosophe. Et ce que je trouve intéressant pour moi, c'est que il parle dans cette interview de ce qu'il appelle la déformation professionnelle. C'est-à-dire qu'il dit au fond, à travers cette expérience du clown et en faisant jouer par exemple à des futurs universitaires un rôle d'universitaire, il nous amène à nous déprendre d'une forme de de prétention ou de collage à des fonctions. Et quand on parle de ce que c'est que faire de la philosophie, on peut très rapidement, quand on fait de la philosophie, se prendre pour un philosophe ou surjouer le philosophe. Et je pense que l'humour, un petit peu comme on le disait tout à l'heure à propos de Marie de Gournay, nous permet de nous décoller de représentations qui viennent encombrer, empêcher et de prendre un peu de distance avec soi-même. Cette distance, il me semble, c'est un espace justement qui laisse place à la créativité, qui laisse place à l'essai et qui permet, de peut-être dégonfler cet outre que peut être le philosophe content de lui-même ou satisfait de sa propre pensée. Donc moi, je trouve qu'il a, en plaisantant, en faisant l'humour, c'est plus que plaisanter, en faisant l'humour avec la philosophie, il est au plus près quand même de justement cette expérience qui nous amène à nous décoller de nous-mêmes, qui est, je pense, une, une expérience fondatrice pour le philosophe.
Ouais. Ouais, on rejoint un petit peu aussi cette idée de désenseigner la sottise qui pourrait nous menacer.
Ouais.
Voilà.
Ouais, 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 tout à fait.
Alors, bon, j'avais aussi envie de parler un petit peu de je ne sais pas si on a beaucoup de temps encore, mais... D'accord, d'un auteur que j'aime beaucoup, qui a beaucoup parlé de la technique, c'est Gilbert Simondon. Et alors, il parle beaucoup de nos rapports à nos objets techniques et donc à ce que l'on peut créer, hein, pour essayer de faire le parallèle entre l'artisan philosophe et ses créations. Et lui, il propose justement une pédagogie pour apprendre davantage le fonctionnement des objets techniques. Hein. Il explique que ça permettrait d'accompagner tout le processus de suivi, de réparation, d'utilisation, d'éviter les pannes, voilà, d'accompagner en fait ces objets. Hein, et de ne pas les produire comme ça et les laisser, et d'être finalement dans une espèce d'aliénation, d'extériorité par rapport à eux, de rester étrangers, hein, et aussi de les abandonner. Et donc, il y a tout un problème de pollution, voilà. C'est quand même quelqu'un qui a écrit en 1958, il était vraiment précurseur, hein, parce qu'on a vraiment ce problème-là aujourd'hui avec les batteries de téléphone, par exemple. Et donc, je me demandais si par analogie, hein, on pourrait dire aussi que la philosophie est menacée par un risque d'aliénation par rapport à ses productions, hein, puisque c'est une technique qui produit quelque chose, est-ce qu'elle pourrait, alors c'est peut-être un peu difficile comme question, mais est-ce qu'elle pourrait aussi s'aliéner, est-ce qu'elle pourrait rester extérieure, voilà, est-ce qu'elle pourrait produire des concepts sans réellement les penser, et puis qui seraient récupérés, et qu'on, finalement, et qui seraient désincarnés, quoi, et ce qui, voilà. Quand on aurait oublié le geste, voilà.
Oui, alors effectivement, c'est intéressant. Ça me fait penser aussi à ce que disait Stigler du rapport au numérique, hein, avec l'idée que on utilise cette technologie du numérique, mais finalement, on en a oublié la naissance, les conditions, le fonctionnement matériel. Ah oui. Hein, et ça me fait penser un petit peu à ce que tu dis à propos de Simondon. Et si j'essayais de transposer un petit peu ça, moi, il me semble que ça pose la question de comment on rentre dans la fabrique du discours philosophique. Comment ça se fait un discours philosophique, finalement ? Comment ça se construit, ça s'élabore, hein ? Et alors, c'est pour ça que moi, je me suis quand même beaucoup intéressée au discours que les philosophes tenaient sur leur propre façon de travailler. Hein, c'est-à-dire, au fond, la philosophie, c'est un travail. Et nous, ce qu'on a, c'est un produit fini. Un texte, un discours, une conférence. Mais comment ça s'élabore, ça ?
Ah, mais voilà, tu reviens, alors c'est ça, en fait, ce que tu fais, c'est exactement ce que dit Simondon sur les objets techniques. C'est tu reviens au processus, hein,
exactement.
À l'ontogenèse, ouais. Il appelle ça comme ça. Alors, je suis désolée, l'émission touche à sa fin. Et de manière tout à fait traditionnelle, je vais te poser un petit questionnaire, ce qu'on appelle un questionnaire parationnel. Alors, il s'agit de répondre sans réfléchir de manière très rapide à des questions qui ne sont pas spécialement philosophiques. Premièrement, quel est ton rêve d'enfant ?
Voler.
Qu'as-tu envie de dire à la jeunesse ?
Philosopher.
As-tu des talents cachés ?
Je crains que non.
À découvrir. Alors, quel autre métier aurais-tu voulu faire ?
Alors, j'aurais aimé être géographe.
Ah, comme Kant aussi.
Voilà.
Les chemins de Kantien. Alors, quel personnage aurais-tu aimé rencontrer et pour lui dire quoi ?
Oh, ça, c'est une question très difficile. Très difficile. Je ne sais pas, peut-être ce personnage de Socrate sur lequel j'ai tant travaillé, qui est un personnage absolument insaisissable. Donc, peut-être que ça aurait été intéressant de le rencontrer, oui.
Alors, eh bien... voilà, chers auditeurs, cette émission touche à sa fin, donc, et je remercie tout particulièrement à la technique Enrico et son stagiaire. je remercie également notre invité, Stéphanie Perrault-Puységur, qui a réussi à venir nous parler entre deux cours, entre deux trains. Hein. Et je rappelle ses livres, Gestes, figures et écritures de maîtres ignorants, Platon, Montaigne, Rancière, aux éditions Lambert-Lucas. Et le livre qui sort là, dans quelques jours, L'éthique et les enjeux de la formation professionnelle, éducation et santé, qu'elle a coordonné, hein, et co-écrit aux éditions Harmattan. De toute façon, vous pourrez retrouver toutes ces informations avec notre podcast hein, sur le site daligrefm.org. Je vous informe simplement que la prochaine émission de Philosophie au présent aura lieu samedi 16 mars 2024 à 16h. Nous recevrons la philosophe et journaliste Géraldine Mühlmann hein, qui anime d'ailleurs de son côté l'émission de radio sur France Culture avec Philosophie. Et elle sera là pour une réflexion sur philosophie, politique et réalité à l'occasion de la sortie de son dernier livre Pour les faits. Hein, et ce sera d'ailleurs peut-être l'occasion d'expérimenter une forme de geste philosophique également. Voilà, merci à tous et je vous dis à très bientôt, chers auditeurs.
Merci, au revoir.
Au revoir, Stéphanie.
Écoutez Aligre FM 93.1.